J'ai eu une période très très sportive où je me force à essayer d'être le petit gars musclé. Et en fait, je me déteste. On se libère d'une relation toxique, on sait plus qui on est. Et j'ai vraiment eu ce truc de me dire, soit là tu te fous en l'air, soit tu fais les choses. Tu sais pas ce que c'est les choses, mais t'essayes. Moi j'ai été physiquement agressée dans la famille. J'ai deux sœurs aînées, dont une qui a vraiment pas voulu, pour qui il y avait ce fameux deuil, cette fameuse mort de membre de la famille. Mes parents sont devenus très engagés, très militants, des alliés très verbaux. Ils organisent des groupes de parole dans un centre LGBT. Être trans, c'est, moi aujourd'hui je le dis comme ça, c'est une chance.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'Over the Rainbow, un podcast qui vous donne la parole pour venir raconter vos histoires. Ici, vous allez apprendre des choses, vous informer, être sensibilisé à des causes, rire, peut-être pleurer aussi. Mais ce qui est certain, c'est que ces épisodes vont vous toucher. Le mantra ici, c'est prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et ça commence maintenant. Je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour Alexis.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Bah, merci à toi, merci de m'accueillir chez toi. Trop, trop bien, vraiment, je suis très bien accueillie, je suis très contente.
On est au chaud, il fait moche, c'est très bien.
Vraiment ambiance très chill. Comment est-ce que tu vas ?
Ça va. 2024, c'est un... J'ai l'impression qu'on en a déjà fait 15 mois.
Ouais,
de cette année.
C'est vrai.
Et c'est beaucoup de contrastes. Je ne sais pas exactement tous les jours comment gérer le flux des infos, des énergies, des émotions que ça génère. Mais en même temps, il y a pas mal d'espoir.
Ouais, je suis d'accord. Effectivement, c'est un peu méli-mélo, on va dire.
Oui, c'est mi-raisin.
C'est ça. Des trucs sympas, des trucs moins sympas, on fait avec. Ben, en tout cas, franchement, je suis trop contente de te rencontrer enfin. Ça fait des années que je te suis.
D'échanges interposés,
oui,
de réactions.
C'est ça. Vraiment, j'adore ce que tu fais sur les réseaux et
merci.
Tout. Et c'est vrai que dès le début où j'ai créé mon podcast, je m'étais dit, mais j'adorerais avoir Alexis.
Eh bien, voilà.
Ça y est.
Ça aurait dû se faire plus tôt, petit spoiler.
Ouais.
Mais voilà.
Ouais, c'est bon, on a réussi à trouver un moment, donc trop bien. Du coup, aujourd'hui, on va pouvoir parler de ton parcours donc, en tant que femme transgenre. Mm-hmm. On va pouvoir parler d'engagement féministe, de lutte pour les droits des personnes trans, de transmisogynie. Bref,
Rien que ça, vaste programme,
vraiment, il y a de quoi faire. Déjà, si on prend un petit peu les choses dans l'ordre, est-ce que tu peux nous parler de toi enfant ? Comment tu étais ?
Je pense que j'étais beaucoup plus insouciante et apaisée qu'aujourd'hui, notamment dans la mesure où cette question de l'identité trans, de qui j'étais et de comment je le vivais par rapport au regard des autres ou quoi, c'était un vrai non-sujet. Je fais partie de ces personnes trans pour qui, d'aussi loin que je me souvienne, je pense à moi et je me conçois comme une petite fille. Et dans la petite enfance, c'est vraiment absolument pas ni un sujet, ni un problème. C'était vraiment robe de Blanche-Neige, ma meilleure vie. Et voilà, sans vraiment avoir conscience, en allant à l'école et en entendant bien, non, faut que t'ailles aux toilettes des garçons ou quoi. Mais j'avais un peu l'impression que c'était les adultes qui faisaient leur truc.
Ouais,
j'écoutais, mais pas ce qu'il fallait. Mais,
Toi, t'étais dans ton monde, ça t'allait, quoi.
Ouais.
Okay.
Et ouais.
Donc, du coup, justement, c'était un peu ma question d'après, mais donc, ça, t'as déjà répondu. En fait, t'as toujours su que t'étais une fille, entre guillemets. Genre, pour toi, c'était une évidence.
Ouais,
Tu le conscientisais pas forcément en mode, il y a un décalage.
Non, pas vraiment petite.
Ouais.
Et même en me comparant aux autres petites filles du même âge, je vois pas de différence. Je sens des différences de traitement, encore une fois, mais ça m'impacte à la limite pas du tout. J'ai souvenir, par exemple, que je viens d'une famille militaire, on vivait en caserne, donc c'était un entre-soi très particulier. Et il y avait la coiffeuse qui venait tous les temps à la caserne pour faire les 37 coiffures d'affilée.
Ouais, tous les enfants.
et les mères au passage. Et c'est la mode de le petit carré très très fin d'alizé.
Okay,
on est vraiment en 2000-2001. Mes copines se font toutes le carré d'alizé et je veux le carré d'alizé. Et on me dit, bah non, pas toi. Et vraiment, je comprends juste pas pourquoi pas moi. Je me retrouve avec un vieux bol.
Zut.
Ok, quoi. Mais voilà, enfin, c'est, y a pas de, y a pas de différence dans ma tête à l'époque.
Je vois. Et comment est-ce que cette perception justement de ton identité et du décalage éventuel après a évolué en grandissant ?
La puberté, l'adolescence, ça a cassé toute la sérénité et la certitude que je pouvais avoir. Je pense que c'est vraiment les injonctions, notamment de ma famille, notamment d'un oncle, qui a commencé à vraiment imposer le fait que maintenant, il ne fallait plus pleurer, j'avais les cheveux déjà très longs, il fallait couper les cheveux, il fallait faire du muscle, il fallait trouver une nana. Et c'était à répétition, et c'était accompagné par les coups de poing dans l'épaule.
Ouais, bien homme, bien viril.
Ouais, fallait, et c'était empreint d'homophobie, de misogynie. Et donc, c'est le premier truc où je me dis, mais donc ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas. Et je sens bien que si on me fout la pression et qu'on est aussi relou, c'est que c'est important a priori qu'il y ait ces changements-là qui soient opérés. À côté de ça, il y a aussi le collège qui a été des années de harcèlement. Vraiment, on me suivait jusque chez moi en m'insultant. C'était un petit collège, hein, et j'étais vraiment la tarlouse du collège, très concrètement, pendant toutes mes années. Ça n'a pas changé au lycée, mais disons que le recul n'est pas le même. Et ces deux, je dirais que c'est ce facteur familial, ce facteur collège, où en fait on vit au collège quand on est jeune, on n'a que ça, c'est notre cercle social, c'est notre espace de vie, plus que chez nous même. Si on ne compte pas les heures de sommeil, mais bon. C'est vraiment ce qui a fait qu'il a fallu que je... Enfin, je me suis dit, il faut que je me force à quelque chose.
Ouais.
Et en plus de ça, la puberté, concrètement, le corps qui change et qui se met à te dégoûter profondément, ce que je pense que beaucoup de personnes trans vivent. Bon, bah, ok. C'est que c'est moi le problème. Puisqu'il y a autant d'autres personnes qui soulignent que c'est un problème, c'est que ça vient de moi. Et ça inverse, en fait, cette dynamique de « bon, les adultes me disent ça, mais c'est quand même... » Et donc, je me force. J'ai eu une période très, très sportive où je me force à essayer d'être le petit gars musclé. Et en fait, je me déteste, très concrètement. Trigger warning, pardon. va y en avoir d'autres, comme ça.
On préparez-vous. Fait un trigger warning général.
Il est général. Je me déteste et au fil du temps où je me rends compte que j'arrive pas à correspondre à ce qu'il faudrait, vraiment, c'était un échec absolu. Je continue à me forcer, je me déteste de plus en plus, et viennent les pensées suicidaires, viennent vraiment une espèce de dépersonnalisation de soi, où en fait, je crois pas. Je suis pas pour la diffusion d'une rhétorique de « on est dans le mauvais corps quand on est trans », je la comprends. Et je la comprends d'autant plus qu'à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression de devoir me séparer de ce corps, parce que c'est pas moi, ça n'existe pas, ça devrait pas exister. Donc l'adolescence, ouais, gros changement.
Ouais, ok. Et à quel moment, justement, toi, tu t'es dit, parce qu'à ce moment-là, t'étais mal dans ta peau et tout ça, mais tu te questionnais justement sur ton orientation sexuelle, ton identité de genre, enfin, comment ça se... À l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passait ?
Je crois que j'ai silencié tout questionnement. On est quand même en 2000, enfin ça fait déjà bon quelques années, et on n'a pas du tout la même fenêtre de visibilité. Ouais. Concrètement, le seul souvenir à l'époque que j'ai d'entendre parler de transidentité, c'est un tellement vrai. Donc pour celles qui se souviennent de tellement vrai, mon Dieu, la catastrophe. C'est un épisode où il y a une jeune meuf trans qui a peut-être 18 ans à l'époque, qui a été rejetée par sa famille, qui habite dans un studio, dans une banlieue un peu triste de Strasbourg, et qui est montrée dans ce studio vide où elle a une table, et tu sais, les chaises de jardin en plastique qui finissent toutes par casser blanches.
Je vois.
Voilà, celle-là. Et elle mange une baguette de pain. Elle ne peut rien se payer d'autre. Oh. Elle mange une baguette de pain assise seule sur ses fauteuils de jardin.
Dans son appartement. La tristesse.
Donc, je ne comprends pas exactement ce que c'est être trans, mais la seule fenêtre que j'ai là-dessus, c'est que c'est triste, que tu es seule, qu'il y a un rejet complet. Et en plus, le tellement vrai, on parle pas d'une façon respectueuse. C'est à moitié il, à moitié elle.
Ouais.
Donc, je pense qu'à ce moment-là, il s'opère un truc où le peu de sérénité et de certitude que je pouvais avoir est bouclé par ça. Et il faut attendre des années pour même... Enfin, déjà pour apprendre les termes, pour apprendre les concepts, parce que quand j'y pense et que je me dis « Non, mais je sais qu'il y a un truc qui ne va pas », j'ai l'impression d'être la seule personne comme ça. Donc, il a fallu attendre le début de vingtaine pour en fait redécouvrir, vraiment se redécouvrir, se comprendre. C'est se redécouvrir et se comprendre. Je pense que c'est vraiment les deux expressions qui vont pour ce qui se passe après.
Ok. Et sur cette période-là de l'adolescence, du coup, tu disais que tu avais des moments qui étaient difficiles dans les établissements scolaires et tout ça,
Oui.
notamment. Et tu avais quand même un groupe d'amis, des personnes à qui tu pouvais te confier ou tu gardais tout pour toi?
Me confier, non. Je parle pas de ça. J'ai fait un coming out gay parce que je me disais, ça se trouve, c'est ça, ça
Ouais.
sera. Bon, spoiler alert, ça n'était pas ça. Mais ouais, un groupe de 4 amis avec qui j'ai fait mon collège et mon lycée, une partie de mon lycée parce qu'après on a déménagé. Mais les questions sur le genre, elles n'existaient pas,
Ouais.
vraiment.
Oui, c'est sûr que c'était aussi un moment où on n'en parlait pas. Enfin...
Non, je pense que les seuls référents qu'on avait à ce moment-là, c'était ce genre de 2-3 trucs télé-réalité où on en fait un truc où on est des bêtes de foire,
Ouais.
concrètement, et des vieux référents des années 60, 70, 80, où c'est le cabaret et on fait l'amalgame avec le transformisme et chez Michou.
Ouais.
Et après, des trucs comme Le Père Noël est une ordure, le personnage de Christian Clavier, qui est a priori une femme trans, c'est pas dit, c'est même pas dit, donc et qui en plus superpose tous les stéréotypes de. Elle est vulgaire, elle est pathétique, elle est égocentrée. On devine qu'elle est un peu travailleuse du sexe dans une vision très putophobe du truc. Donc, non, on n'en parle pas. Et si on le sous-entend, ça n'est que péjoratif.
Ouais. Et à quel moment, du coup, t'es arrivé à ton coming in, donc le fait de te dire, ok, en fait, je suis peut-être une personne trans.
Alors, peut-être, je ne sais pas. Quand est-ce que j'ai réussi à rouvrir? Je sais que venir à Paris pour les études, ça a joué, clairement.
Ouais.
Par contre, je sais que le moment où je me dis, c'est clair, c'est évident, mais surtout, surtout, maintenant, tu fais ce que tu as à faire, c'est la vidéo de coming out d'Océan
Ok.
pour Combini. Je crois que c'était Combini.
Ouais.
En 2017 ou 2018. Je sais qu'il y a toute une réflexion avant, mais c'est devenu très flou dans ma tête aujourd'hui, notamment parce que ça s'est superposé à des violences conjugales.
Ok.
Ma première relation sérieuse, j'ai entre 17 et 20 ans. C'est la seule. Je sais qu'il y a déjà un coming out en fait à ce moment-là, et la personne me dit non,
Ok.
non, ça n'existe pas, tu n'as pas le droit. C'est ridicule, mais il y avait en plus de ça toutes les questions d'emprise, de violence physique. Donc, il a fallu que ce soit Océan, qui est quelqu'un que j'admirais, dont je connaissais le travail, que j'aimais beaucoup écouter, qui dise, bah, en fait, moi aujourd'hui, je crois que dans la vidéo, il dit littéralement, aujourd'hui, je suis épuisé de vivre. Et quelqu'un que tu connais, que tu admires et qui est connu, c'est très bête, c'est vraiment les relations parasociales, mais tu ne penses pas qu'elles peuvent ressentir ce genre de choses, d'autant plus sur ce genre de questionnement très intime. Qui était plus tabou, plus méconnu. Et donc, ça m'a vraiment fait dire, bon, bah, CEO, c'est un peu. Alors, en plus, il y avait eu fin de relation. Donc,
Ouais. Du coup,
ce
t'étais
moment
plus
très
libérée
étrange où,
de...
quand on se libère d'une relation toxique, des violences conjugales, on ne sait plus qui on est. Et j'ai vraiment eu ce truc de me dire, encore une fois, soit là, tu te fous en l'air, soit tu fais les choses, tu ne sais pas ce que c'est, les choses, mais t'essayes. Et j'ai essayé.
Et finalement, ça a plutôt bien fonctionné.
Je crois.
Et donc ensuite, comment est-ce que ça a impacté ta santé mentale, le fait de bah justement toute cette période de passage de questionnement à OK, je pense qu'en fait c'est ça, c'est la transidentité, etc. Comment toi t'as vécu cette période-là? Tu nous parles de pensées très sombres,
Ouais,
etc.
oui.
Comment ça a évolué?
Ça a été vraiment les montagnes russes parce que. Mais encore une fois, parce que c'est superposé à plein d'autres choses très très dures et que en fait gérer autant de choses assez fondamentales en même temps, mon
Ça fait
Dieu,
beaucoup, quoi.
ouais, c'est un sacré nœud. Mais de fait, il y a eu tentative de suicide, j'en ai fait 3. Et en même temps, Rétrospectivement, je me rends compte que j'ai jamais eu honte. Je savais que ça allait être dur. Il y a eu des fois où j'étais fatiguée d'avance, où je voulais pas me montrer, parce que tu sais que même quand tu as pas encore toutes les données sur ce que c'est être trans, parce qu'il y a aussi cette question du flou, tu sais pas par où tu commences, tu sais pas ce que tu fais. Tu sais quand même que ça va pas être simple. Donc j'ai jamais eu honte. Et j'ai tout de suite été suivie et accompagnée par mes parents, pas par toute ma famille, il y a aussi eu des ruptures, mais par mes parents. Donc ça a été très simple dans un ensemble plus large, très très dur. Je pense que c'est comme ça que je le décrirais. Et puis le fait est aussi que j'étais pas non plus sans lien avec la communauté queer. Au sens large, venir à Paris en faisant les études à l'école du Louvre, j'étais au contact d'espaces, de réunions, la fameuse mutinerie qui est légendaire à Paris, des soirées comme la Ouette, enfin des soirées aussi drague. La culture drague m'a beaucoup accompagnée et aidée à explorer tout ce que peut être le genre, les genres. Donc j'étais pas non plus sans ça. Je savais qu'il y avait une communauté, je savais qu'il y avait des espaces, je savais qu'il y avait une vie. Ce qui fait aussi que ça s'est politisé très vite derrière. Donc voilà, il y a des accroches rapides qui facilitent beaucoup de choses parce qu'on a besoin de la communauté. Il y a d'autres trucs qui ralentissent et qui superposent, mais globalement très simple. Je pense aussi que j'ai eu beaucoup de chance de pas être plus rejetée, hein, dans la communauté. C'est plus de la moitié, je crois que c'est 51% des statistiques selon le Williams Institute. Vous irez rechercher, je suis plus certaine, mais il me semble, qui subissent du rejet familial, donc très simple dans très compliqué.
Tu parles justement de famille et tout ça, c'est ce que j'allais te demander au niveau après du coming out, comment ça s'est passé. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu?
Bah, ça s'est fait en fait comme se font tous les parcours de transition sociale, à savoir il y a des coming out, c'est vraiment des. Plein de c'est des verrous successifs. Moi, j'ai commencé vraiment avec un cercle restreint d'amis, mais sans être out pour autant dans mes études. L'école du Louvre, c'est un milieu très particulier. C'est déjà beaucoup de pression pour réussir, c'est pas simple. Donc, je voulais pas m'ajouter tout ce que ça pouvait ajouter. Donc, il y a vraiment la question de jongler en fait avec des identités finalement, des identités en tout cas des identités perçues par l'extérieur. Mais ça, pour le coup, ça a été assez joyeux, parce que c'est venu à un moment où les choses s'étaient déjà apaisées pour moi. Et globalement, quand je parle de transition et quand on me demande, mais du coup, c'est quoi une transition? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Moi, je parle de mon expérience. J'essaye toujours de parler de mon expérience en rajoutant les données sociologiques. Et de mon expérience, c'était vraiment marrant. Parce que c'était essayer les prénoms, en essayer 12 dans une journée, du coup avoir des gens autour qui comprennent pas exactement ce qui se passe, et tu peux te faire passer pour, tu peux dire que tu travailles pour le KGB ou la CIA, et puis il y a aussi ce truc très drôle de on essaye des nouveaux prénoms et tu te reconnais pas du tout, et il y a des gens qui passent un quart d'heure à t'appeler avec ce prénom et tu réponds pas, et t'es là, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, d'accord. Donc voilà, moi je l'ai vécu comme un processus joyeux après. Ici encore, en ayant les expériences de rejet de certaines personnes proches dans la famille, j'ai deux sœurs aînées, dont une qui a vraiment pas voulu, pour qui il y avait ce fameux deuil, cette fameuse mort du membre de la famille, et puis des amis aussi pour qui on n'est plus du tout la même personne, et qui se font tout un tas d'idées. Sans même connaître en fait ce que sont les personnes trans, parce que on ne sait pas encore dans l'inconscient collectif, et qui se disent bah non, moi je traîne pas avec des gens comme toi.
C'est
Donc
horrible.
ouais bah oui c'est horrible. Il faut que ça n'existe plus comme dynamique sociale. C'est pas de ma faute. C'est moi j'ai rien fait et je le sais. Et je pense aussi que j'ai eu la chance de quand même assez rapidement savoir que j'avais rien fait. Et pas avoir peur même de leur remettre dans les dents. C'est ton problème, c'est toi qui décides ça, donc bah vas-y, au revoir.
Tu parlais de tes parents et eux notamment, c'est souvent c'est le cercle très proche et c'est souvent aussi par les parents qu'il y a du rejet. Et toi, du coup,
Ouais.
ça s'est très bien passé de ton côté.
Oui, ça s'est très bien passé, d'autant que je pense qu'ils ont voulu m'aider à faire un coming out plus tôt pour m'éviter tout ce que j'ai traversé. Globalement, aujourd'hui, quand mes parents sont devenus très engagés, très militants, des alliés, très verbaux, ils organisent des groupes de parole dans un centre LGBT. Donc oui, j'ai une chance exceptionnelle à ce niveau-là. Et clairement, ils savaient, mais c'était pas à eux de faire le travail qui va avec le fait de prendre conscience et de partager. Il y a eu des perches. Moi, j'étais pas prête. Mais ce qui est aussi un grand signe de respect, en fait.
Ouais.
De pas. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui seraient un peu pressés. Et j'ai pas eu à forcer ça. Je pense que ça aurait été quand même aussi très compliqué, hein, même quand on sait que c'est qui on est, de devoir forcer le travail de prise de conscience. Parce qu'en fait, quand on parle de coming out, on a l'impression que c'est l'étape, que ça y est, on est. Mais avant, il y a effectivement tout le coming in qui est des années de prise de conscience. Des fois, c'est plus rapide que ça, mais dans mon cas, des années de réflexion, de prise de conscience, de déstigmatisation. Donc, j'ai eu cette chance-là.
Et c'est aussi un gros sujet en matière de dating, la transidentité.
Ouh là là.
Comment ça s'est passé pour toi dans cet univers-là? En sachant que déjà, du coup, tu commençais par une relation de violence conjugale.
Ouais. En fait, je pense que j'ai pendant longtemps pas réfléchi cette question-là dans le dating. Après cette relation, quand même 3 ans, j'ai pas daté, j'ai surconsommé. J'ai vraiment eu cette période de thérapie par l'hypersexualité. Connaître les gens m'intéressait pas. Je pense aussi qu'il y avait sur la superposition des questionnements, des questions, le fait aussi de se réapproprier, d'essayer de comprendre son corps autrement par la sexualité. Et ça a été une sorte d'échappatoire parce que ça m'a aussi empêché de réfléchir, ce qui n'est pas très sain, mais bon, bah, là, on cope comme on peut.
C'était une étape.
Oui. Ça m'a appris plein de choses. Je sais que j'ai réussi à pas me mettre en danger. Donc aujourd'hui, je pense que ça m'a appris. Je sais pas ce que j'aurais fait à la place. Enfin, on traverse des blocs de vie successifs qui nous apprennent et qui nous préparent à la suite. Ça m'a préparé à la suite. Aujourd'hui, si j'avais pas été cette tête brûlée, je sais pas par quoi j'aurais compensé, parce que c'est une question de compensation. Donc voilà, je le shame pas, mais de fait j'ai pas daté, vraiment c'était ce truc très qui parle aussi beaucoup de la communauté gay, parce qu'à l'époque j'étais surtout les pieds dans cette communauté là de cette question de la consommation, de la désindividualisation dans la sexualité. Bon, voilà, mais moi ça m'a aidé à ce moment là aujourd'hui c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut qu'on porte collectivement un regard critique, mais j'y suis passée. Et en fait, je sais aussi que quand j'ai commencé ma transition sociale, j'étais encore sur Grindr, ce que font beaucoup de femmes trans, font beaucoup de personnes trans. Donc, il y a eu des flous. Je pense que comme ça allait mieux quand j'ai recommencé à vouloir dater, je me suis à nouveau pas trop posé de questions. Par contre, tu expérimentes quand même de la transphobie. Même dans des espaces, même sur des applications qui sont censées être LGBT+, queer. Et puis après, je suis vraiment revenue au dating qu'en étant beaucoup mieux dans ma peau, en étant plus à l'aise aussi avec moi, parce que, pour citer RuPaul, si tu ne t'aimes pas, comment est-ce que tu vas aimer quelqu'un d'autre? Est-ce que je peux avoir un amen? Donc, c'est revenu plus tard. Et ça a fait partie aussi des choses qui ont déclenché mon engagement et ma volonté de prendre la parole sur les transidentités publiquement, parce que, super, tu vas mieux, tu vas bien, et on va te faire comprendre que tu ne dois pas exister quand même dans les espaces d'intimité.
Ouais.
Donc, y a un problème, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, faisons mieux. Et voilà. Donc oui, ça a été un peu tous les passages obligés, je pense qu'il faut qu'on réussisse collectivement à faire moins de généralisation sur les personnes trans, mais il y a des étapes qu'on vit collectivement, qu'on partage. Et parmi ça, il y a le fait d'aller au date où tu comprends que la personne ne te regarde pas comme un être humain et veut juste se dépêcher de finir le mojito pour aller te soulever dans les toilettes. Il y a le date où la personne s'assoit en face de toi, te regarde et t'agresse parce que en fait, elle n'est pas prête et elle n'est pas capable. Moi, j'ai été physiquement agressée en sortie de bar comme ça par un mec qui savait. En fait, il s'assoit, tu commences à discuter. Alors, ta journée, redis-moi ce que tu fais dans la vie. Non, je peux pas en fait, c'est pas possible. Tu passes par un nombre incalculable de « non mais tu resteras un mec, quoi qu'il arrive, dans 10 000 ans quand on retrouvera tes os, les archéologues ils diront que t'étais un homme ».
Quel rapport en plus, oui, pourquoi dire ça, ça a tellement pas de sens.
La façon de dénigrer avec humiliation, avec violence sur le physique... et au contraire, l'autre pôle d'hyper fétichiser en étant dans une espèce de grandiloquence dont on sait qu'elle n'est pas honnête. En fait, tu entends vraiment, dans la même journée, tu peux entendre que waouh, déesse trans de mes rêves.
Waouh, c'est spécial.
Ouais, non, mais ça, je l'ai vraiment entendu. Et dans la foulée, que tu es un sale déchet qu'il faut gazer, quoi.
Ah ouais.
Ça fait et d'hommes, et ça vient souvent d'hommes. Où il y a cette ligne assez fine de fascination-répulsion. Donc, oui, le dating des expériences étranges.
Ça pourrait être le sujet d'un livre complet, peut-être.
Oui, vraiment. Ça pourrait être d'une série d'encyclopédies, quoi.
OK. Et du coup, est-ce que c'est plus facile de relationner avec des personnes de la communauté LGBTQ+, ou pas?
Oui. Ouais. Oui. C'est quelque chose... On parle dans la communauté du T4T, de trans for trans. Trans pour trans, on traduit. C'est vraiment ce mode de relation qui est en partie, enfin qui est très politisé par la communauté, qui est le fait de se laver un peu de tous les stigmas que peuvent imposer le regard cisgenre. Aussi explorer d'autres modes de relation que l'hétérosexualité cisnormée. Et toutes ces injonctions, c'est le fait aussi de partager ensemble un parcours de transition sociale, médicale, qui sont des parcours longs, qui, selon à qui tu demandes dans la communauté, s'arrête jamais ou pas. Donc oui, c'est un mode de relation qui a une forme de radicalité, mais de radicalité positive. C'est aujourd'hui ce que je vis. Je suis en couple avec une personne non-binaire qui a aussi son parcours de transition. On les a fait ensuite conjointement et c'est... me rencontrer, non mais c'est vivre et voir un parcours de transition qui lui a aussi amené pas son coming in mais son coming out. Donc, c'est très thérapeutique, ça a quelque chose de magique. Il y a les jours où on est aussi deux personnes côte à côte en pleine dysphorie et où on est juste sous trois plaids lestés avec des pâtes au pesto à pleurer devant des ghiblis.
Ça arrive,
mais ça fait partie aussi de l'expérience thérapeutique d'être trans, d'accepter ça et de le lâcher. Donc oui, c'est beaucoup plus simple, ne serait-ce que parce que t'as pas des kilomètres de pédagogie à faire.
C'est vrai.
Et même avec les alliés qui ont les meilleures intentions et qui ont aussi les meilleurs réflexes, les meilleures actions, il y a toujours des moments de pédagogie qui prennent, en fait. Ça reste une charge mentale.
Ouais, c'est sûr.
C'est aussi s'épargner plein de choses. Et c'est très beau. C'est très beau parce que ça fait réfléchir encore plus largement à ce que c'est le genre et à ce que c'est ta transidentité, à ce que c'est la transidentité. Ça ouvre plein de fenêtres. Mais ça, c'est aussi la vie communautaire. Comme l'expérience du féminisme et de la vie féministe et de la sororité ouvre tellement de fenêtres de guérison et de colère saine. Mais en fait, c'est la même chose.
Ok, c'est bien, c'est un côté positif.
Mais bien sûr, mais en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a vraiment plein de choses positives. Et être trans, c'est, moi aujourd'hui, je le dis comme ça, c'est une chance. C'est une chance, pas en soi, et ça doit plus en être une, mais tant que c'est des leçons de vie dans un contexte de vie où on veut pas que t'existes, au fond du fond, ce que ça t'apprend, c'est une chance. Moi, j'en suis persuadée. C'est aussi beaucoup de résilience, et je suis très en colère de devoir être résiliente. Et ça aussi, hein, l'expérience de la sororité, d'être une femme, ça, ces horreurs-là. Mais c'est une chance. On nous demande souvent dans la communauté si on aurait préféré être cis. Et alors, il n'y a pas de réponse fixe, hein, mais moi non. Moi non.
Ok, trop bien. Et du côté social, si on reparle un peu du coming out, t'étais pendant tes études quand du coup tu as fait ton coming out, enfin un de tes coming out. Comment ça s'est passé à ce moment-là, la réception autour de toi?
Alors, j'ai fait des études relativement, non pas relativement longues, j'ai fait un master. Bon, voilà, je sais pas pourquoi je suis partie dans un. Non, mais n'importe quoi. J'ai fait l'école du Louvre. C'est un parcours de 3 ans qui équivaut, enfin, qui prend le même bloc qu'une licence, mais qui n'est pas du tout la même formation. C'est très, très. C'est très à part, hein. C'est assez fermé comme milieu. Ensuite, j'ai fait licence, j'ai commencé à bosser en même temps dans le milieu du patrimoine, de l'histoire de l'art, qui est ma première formation. À l'école du Louvre, j'étais certaine que ça serait pas possible d'exister. C'est un milieu où il y a encore quand même une aumônerie catholique liée à une église. Alors, à l'époque, ça fait quelques années que j'ai terminé, hein, je sais pas, mais à l'époque. Donc, une aumônerie catholique liée à une église très conservatrice, très traditionnaliste. Quand j'y étais, il y avait des discussions pour ouvrir, parce qu'en fait, aumônerie, c'est pas lié à une confession, hein, et pour du coup ouvrir aux autres confessions, aux élèves d'autres confessions, qui puissent avoir leur échange, leur moment de vie autour de leur foi, c'était un non absolu. Il y a eu des efforts pour aussi. Pas se syndiquer, mais en tout cas se fédérer. Si, se syndiquer, à vrai dire, hein, c'est du cas étudiant. Hein. Et pareil, c'est pas un milieu où il y a des syndicats, l'école du Louvre. En plus de ça, c'est quand même une école qui, on nous répète dans les premières années, où il y a une compétitivité énorme, où on incarne l'élite culturelle française, on est les futurs conservatrices du patrimoine français, du pays, de l'art, de la culture. Enfin, c'est un. C'est tout un conditionnement, l'école du Louvre. C'était tout un conditionnement, l'école du Louvre. Être trans dans ce milieu-là, pour moi, c'était. J'avais même pas envie d'essayer, en fait. Voilà, je voulais même pas essayer. J'ai attendu ensuite. J'ai fait une année de formation en langue pour faire mes recherches de master, parce que là, de voir accès aux sources, bref, les chercheuses connaissent. Et c'est dans cette année de transition. Littéralement, que j'ai vraiment, je me suis dit, tu rentres, j'ai fait l'INALCO, tu rentres à l'INALCO, tu as fait une première transition sociale et tu laisses ton dead name, tu laisses, voilà, et c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait, donc ça a duré une année, je suis rentré en master et je m'attendais à ce que dans ces milieux, et en ayant fait ma transition sociale, mais il y a aussi un peu la des loulous, où tu penses que dans ta transition sociale, tu commences, tu as changé ta garde-robe, il y a aussi tellement d'enthousiasme, c'est joyeux, c'est marrant. Tu sais, c'est très. Les séquences de montage dans les films, les Teenage Movies des années 2000, où il y a les relookings et tout,
Oui, je vois,
voilà,
avec la
c'était
petite
très ça,
musique
avec la petite musique.
happy,
Suddenly I see, voilà. Et vraiment, je pensais que j'avais un passing incroyable, que personne réfléchirait, que. Bon, bah non. Mais c'est des processus longs. Le passing, c'est un apprentissage un peu violent aussi des normes de genre. Bon, bref. Et de fait, moi qui m'attendais à ce que ça aille tellement bien, ça y est, j'étais libre, enfin, et tout le monde allait slow clap, wouh, elle est libre. Non, non. Et je me suis retrouvée face à des groupes de discussion, les groupes WhatsApp de travail, où c'est oh merde, on se tape l'autre dégénéré, on se tape le travelot. Voilà. Et un peu comme dans le dating, il y a ce truc, cette claque de te dire, mais non, mais arrêtez, je vais. Pourquoi vous êtes comme ça alors que moi je vais bien? Vous devriez être contente pour moi. Tu t'attends. Enfin, tu le sais. Il y a des. Tu t'en doutes. Mais je suis une personne très naïve au fond du fond. Et du coup, même en me doutant, je pensais pas y être vraiment confrontée. Et c'est une énorme claque qui te fait dire, mais en fait, ça n'ira jamais. Je ne vais jamais pouvoir aller bien. Il y aura toujours un truc qui va me tirer vers le bas. Et même quand moi j'irai bien, on va venir vouloir me faire du mal. Parce que c'était ça, hein, c'était vraiment des groupes Facebook avec des menaces, où on retouchait des photos de ma tête prises dans les amphis. Et là, une grande colère m'envahit, qui me submerge et dont je ne sais pas quoi faire. Donc ouais, les études, ça a été le déclic militant.
Et justement, on parle de déclic, et
On
ça a
parle de
été quoi le
déclic.
déclic pour lancer ton compte?
Bah, ça a été la superposition des messages d'insultes dans le dating et des messages d'insultes et globalement du mépris dans... C'est vraiment les deux.
Un combo,
C'est
quoi.
vraiment me dire... On a le droit de dire des insultes dans le podcast?
Oui,
C'est
tu
vraiment le combo de me dire mais putain,
peux.
est-ce que un jour je vais être, vraiment, est-ce qu'un jour je vais aller bien, pouvoir aller bien partout? Et le déclic, ça a été, enfin, la seule façon que j'ai vue de concrétiser ça, ça a été de ne pas garder pour moi. Parce qu'on est très seul quand on est
Ouais.
trans. Surtout quand on est un bébé trans en début de parcours, qu'on ne sait pas exactement quand même ce que ça, comment ça se passe. Et que même quand on sait qu'il y a une communauté, on ne vit pas avec elle encore. Parce qu'au début, il y a vraiment ce truc de est-ce que j'ai le droit de venir? Donc voilà, il y a beaucoup de solitude. Et dans cette solitude, il y a un moment, moi, je me suis dit, mais je. Non. Ça, non, j'ai déjà suffisamment subi. Je me suis fait suffisamment subir. Maintenant, je vais me donner du soin, me donner aussi le droit à la vengeance. Et ça a été un peu ça le déclic. Et je me suis dit, je vais vous remettre dans les dents ce que vous osez nous dire. Parce que le choix de mots dans la transphobie, il va dans des extrêmes que beaucoup de personnes n'imaginent même plus possibles. Vraiment, et c'est des trucs, des messages que tu n'oublies jamais. Je me souviens encore des tout premiers messages
Ouais.
ouvertement transphobes que j'ai reçus. Je m'en souviendrai par cœur toute ma vie, je pense. Et il y a eu un moment, je me suis dit, bah, vous allez aussi les voir, et ça sera plus à moi de gérer, et vous allez ressentir de la culpabilité. Tant c'est ce qu'il faut, c'est de votre faute, c'est pas moi. Parce qu'il y a ce truc, hein, de se dire, je prends trop de place et en plus, je mets les gens en colère. Non, bah non. Et donc, le premier compte, enfin, le compte Instagram au tout début, Aggressively Trans, c'est aussi pour ça qu'il y a eu ce nom, en fait. C'était cette volonté de d'agressivement renvoyer la transphobie là d'où elle venait. Agressivement, au sens de si j'étais en colère et que je devais dire merde, j'allais dire merde. Et agressivement, au sens où de toute façon, quoi que je fasse, quoi que je dise, qui que je sois, ça n'allait pas aller et j'allais toujours être en trop. Donc, en fait, on est agressive, mais ça aussi, hein, c'est le schéma de la féministe hystérique, quoi qu'elle
Ouais.
dise, même quand elle parle bien comme ça, gentiment, pour pas savoir. Donc, voilà, c'est aussi de là que vient le nom. Et au début, c'était montrer les messages, avec une petite analyse d'expliquer pourquoi c'est horrible, mais c'était très limité au début. C'était vraiment
Ouais.
de la catharsis.
Mais c'est vrai que voir les messages, c'est ça fait un choc. Enfin, même moi, je vois quand tu en repartages encore, parce que malheureusement, tu en reçois encore.
Non, ça ne s'arrête pas.
C'est vrai que tu parlais de mots très forts. Et c'est vrai que vraiment, quand je lis ce genre de message, je me dis, mais comment c'est possible d'écrire des trucs comme ça? Enfin, vraiment, ça me
Mais tu sais
choque.
que je sais pas. Je sais toujours
C'est
pas.
fou, vraiment, je
Ça fait
comprends
des
pas.
années. Et en un sens, tu t'habitues d'une
Ouais.
certaine façon tordue et en réflexe d'adaptation aussi. Mais encore une fois, c'est peut-être que je suis naïve. Hein, mais ouais.
C'est hyper violent, quoi.
Les gens pensent toujours ce qu'ils veulent penser. Et mon but, même dans mon militantisme, c'est pas d'empêcher les gens de penser parce que ça n'arrivera jamais. Donc vous pensez bien ce que vous voulez des trans, des personnes trans, de moi spécifiquement, de Laverne Cox, de Dylan Mulvaney. Vous pensez ce que vous voulez, ça changera jamais. Mais que tu décides de le dire. Que tu choisisses, mais je me demande même s'ils choisissent les mots ou si c'est une impulsion, je ne sais pas d'où ça vient.
Ouais.
Si tu comprends, enfin, tu sais qu'il y a une volonté politique chez certaines personnes, que chez d'autres c'est vraiment une impulsion, mais c'est fascinant en un
Oui, puis
sens.
c'est fou parce que c'est une colère, quoi. On dirait qu'ils ont une colère vraiment contre les
Mais parce
personnes
qu'on
trans.
dirait que moi existante, ça change tout dans leur vie,
Ouais.
alors que non. Et ça changera jamais rien dans leur vie parce que vous n'aurez jamais la chance de me connaître.
Ça, c'est clair. Seulement pour l'élite. Et par la suite, comment t'as fait évoluer ton contenu du coup de jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui?
Je dirais qu'il y a deux mouvements de fond qui ont fait que ça a pris la forme que ça a aujourd'hui, qui est
Ouais.
très très différente. Quand je revois, des fois je m'amuse, je retourne vraiment aux toutes premières publications et je fais Ouh! Mon Dieu, ça a marché avec ça? La première, ça a été le fait d'avoir des retours d'autres personnes trans sur toute cette haine. et des retours de personnes qui disent « j'ai reçu exactement le même message, je te l'envoie, tu peux le partager si tu veux, mais j'ai reçu exactement le même et je pensais être la seule personne à le recevoir ». Mais parce que encore une fois, on ne va pas citer, mais des descriptions de comment on veut mutiler ton corps pendant des heures avant d'envoyer des morceaux de ton corps mutilé par la poste à tes parents,
oh là là.
De violer d'autres bouts mutilés de ton corps. Enfin,
c'est tellement tordu, en fait.
Mais bien sûr, mais jamais tu t'imagines un jour vivre ça dans ta vie. Jamais. Enfin, même dans le cinéma, il faut des films un peu niche pour voir ce genre de truc. Enfin, ça fait vraiment, tu sais, dark web, quoi. Donc, prendre conscience que en fait, on est un ensemble vraiment à le vivre. Encore une fois, le voir, l'entendre, parce que je le savais théoriquement, voir les personnes prendre le temps dans leur journée de se dire « j'ai besoin de te dire que moi aussi, et je ne sais pas quoi faire ». Donc, ce « je ne sais pas quoi faire », « on ne sait pas quoi faire », voir vraiment le bouillonnement de colère, de sentiments de solitude, y a eu le besoin de le canaliser. Et c'est passé par le fait de me reformer en socio, utiliser ma formation en anthropologie qui allait avec l'histoire de l'art pour comprendre que c'est des faits systémiques, des dynamiques, que ça a des noms, cisgaze, regard cisgenre, fétichisation, comprendre qu'il y a une sociologie et le partager, le vulgariser. Ensuite, ça a été comprendre que ma formation de base pouvait m'être utile, que mon diplôme était utile et qu'en fait, quand on, dans ce bouillonnement de « je dois faire les choses » parce qu'il y a un vrai sentiment de devoir qui se développe aussi en voyant que le compte marchait, je me suis aussi dit donc ce truc, je sais pas si c'est vrai, mais je me suis dit c'est donc pour ça que je suis faite. Je sais pas si on est fait pour un truc, mais voilà, je me sens à ma place, en tout cas je me sens efficace. Donc, dans cette espèce de gros bouillonnement, on ne sait pas forcément toujours canaliser ce qu'on veut faire. On veut tout expliquer, on veut pouvoir parler de tout. On a l'impression que si on ne parle pas de tout, on loupe. Y a le fait de trouver aussi des façons et des sujets sur les transidentités, sur le genre, qui apaisent beaucoup toute cette panique. Et pour moi, ça a été de parler d'anthropologie du genre, de transidentité dans la culture, dans l'art. Vraiment de faire la passerelle avec ma formation de base. De voir aussi que ça plaît, que c'est un vrai sujet de curiosité, que les gens se disent « je ne pensais pas qu'il y avait des œuvres d'art qui parlent de personnes queer, qui montrent des personnes trans ». Donc ça a été, voilà, utiliser mon expertise, reconnaître mon expertise, et vouloir agir et vouloir être utile pour changer les choses, qui ont amené le conte tel que vous pouvez aujourd'hui aller le voir.
Et ça t'a aussi amené du coup à l'écriture de livres.
Ouais.
Tu peux nous en parler un petit peu ?
J'ai eu beaucoup de chance, vraiment. Je pense que comme beaucoup de personnes qui ont une visibilité sur les réseaux sociaux, sur des concepts militants, sociologiques, engagés, l'idée de publier, elle vient, on l'a en tête, on a envie, on se dit « waouh, ce serait une consécration ». Je ne pensais pas le faire. Enfin, c'était un peu les trucs inavoués.
Ouais.
et en 2020, Ariane Jeffard, qui est... assistante, elle est... pas représentante, elle est agente littéraire, est venue me voir en me disant « je suis ton compte, il y a plein de choses à faire, qu'est-ce que tu voudrais faire, voilà ce que je pense que tu pourrais faire, on réfléchit ensemble et je vais le présenter à des éditrices ». Mon éditrice Olivia chez Marabout a tout de suite été emballée. Et c'est comme ça qu'une histoire de genre est née. Je l'ai écrit. Au début, je devais avoir 6 mois pour l'écrire. J'ai eu 1 an grâce au confinement. Le tout premier confinement a vraiment été du pain béni pour moi.
Ouais.
Là-dessus, parce que du coup, ça a vraiment permis de peaufiner le livre. Et aussi de canaliser les paniques autour de publier un livre. C'est très, très compliqué. C'est tout un processus. Et il est sorti en février 2021. Ça fait déjà 3 ans. Il vient de ressortir en format poche, donc il continue de vivre, ça me dépasse, mais je suis trop contente. Et ensuite, il y en a eu un deuxième en collectif, c'est Rose Lamisque aussi, qui est venue me chercher. J'ai vraiment ce privilège énorme qu'on est venu me chercher. Ce qui est aussi une reconnaissance d'une expertise, d'une voix qu'on veut voir exister, ouais. Et ce qui fait énormément de bien, parce que l'un des gros trucs qui m'a pesé, moi, dans... ma vie militante, ça a été quand même de ressentir ça fait 5 ans maintenant, et que dans les premières années, concrètement, j'avais fait vraiment l'expérience d'un féminisme qui ne voulait pas des femmes trans. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup plus polarisé, ça a beaucoup changé. Mais au début, c'était le cas, et il ne fallait pas dénoncer des féministes transphobes, fallait pas donner de mauvaises images. Donc voilà, que Rose Lamy, qui est quand même une des icônes des nouvelles générations féministes, mais bien sûr, on l'adore, son travail est incroyable, allez la lire, allez la suivre, allez la soutenir, me propose ce projet qui s'appelle donc Moi aussi, MeToo au-delà du hashtag, qui vient aussi pour la date anniversaire de MeToo en France. Enfin, jamais... Encore une fois, quand on a l'impression de ne pas avoir le droit d'exister dans des espaces de femmes, de sororité, et qu'ensuite on vient te dire « MeToo à 5 ans en France, je voudrais que ta voix existe dans un projet qui parle de... » Enfin, incroyable, à côté de Rokhaya, enfin, à côté de Louz, enfin, de femmes que tu regardes déjà de loin, les étincelles dans les yeux. Donc ouais, c'était le deuxième. Il y en a d'autres qui arrivent, je ne peux pas encore exactement en parler,
okay,
mais ça viendra 2024, année éditoriale.
Ok, trop bien, bravo.
Merci.
Et tu parles justement de certaines féministes qui ont vraiment polarisé le débat, qui se disent donc rat femme, qui excluent les personnes trans. Et ces dernières années, effectivement, il y a eu vraiment... Je trouve qu'il y a eu, moi qui ai observé, qui me suis vraiment intéressée au féminisme à partir de 2018, on va dire, quand je suis rentrée à la fac. J'ai commencé à m'informer sur le plaisir féminin via le compte certaine personne que
j'ai fait la même chose.
Pas, et qui, petit à petit, en fait, je l'ai vu complètement vriller sur des propos hyper transphobes et tout. Et j'ai eu l'impression que vraiment, ces dernières années, il y a eu ce truc de passer de je suis un peu transphobe mais je le dis pas trop à je l'assume complètement et ça fait partie de ma lignée.
C'est devenu, mais en même temps c'est un mouvement qui s'est opéré dans les espaces politiques au sens large.
C'est vrai.
Le sujet transidentité est devenu un sujet qui rapporte des voix aux espaces de droite et aux espaces conservateurs, mais aussi dans une certaine gauche qui estime que y a un universalisme de l'identité. Ça existe, hein. La droite n'a pas le monopole de la transphobie, hélas.
Ouais.
Mais globalement, c'est vraiment devenu un sujet pour les milieux réactionnaires conservateurs. Mais c'est devenu un vrai sujet. Aujourd'hui, aux États-Unis, on est en 2024, on est seulement en début mars, tout début du troisième mois. On n'a même pas fait le quart de l'année. Il y a déjà plus de 400 projets de loi transphobes aux États-Unis. Et quand on parle de projets de loi transphobes, c'est pas des projets de loi pour dire... c'est pas des petits trucs. C'est nous retirer le droit... d'accéder à des espaces publics.
Non, mais ça, j'ai vu ça, mais j'étais choquée.
C'est revenir à des projets de loi sur le travestissement, sur le modèle des lois du 19e siècle, pour être sûr que les bonnes personnes portent les bons vêtements et que la salubrité publique soit sauvée. C'est aussi maintenant des projets de loi pour interdire les soins de transition aux adultes, donc des gens qui sont capables d'un consentement éclairé et qui devraient pouvoir disposer de leur corps librement, parce qu'on estime que toute transition est contre nature, est un geste de violence, est le signe d'une déviance. C'est des lois qui nous interdisent d'avoir des enfants, qui nous interdisent en tout cas, qui nous empêchent. Et c'est le cas en France. On rappelle que les personnes trans n'ont pas accès à la PMA. C'est des lois aussi qui, quand une personne mineure trans fait son coming out et qu'elle a des parents qui soutiennent, incitent à la dénonciation, à la délation de ses parents pour leur retirer la garde de l'enfant. Je crois que c'est le Tennessee qui vient juste d'annoncer qu'ils allaient faire voter ça, le Texas aussi... Donc on est sur une volonté, en fait, de nous empêcher d'exister plus loin que juste nous retirer une égalité des droits. Et oui, en fait, le féminisme, ce n'est pas un monolithe. C'est des féminismes. C'est des féminismes qui parlent des spécificités d'être femme, mais qui parlent aussi des positions politiques des femmes dans la société. Et il y a des femmes de droite, il y a des femmes d'extrême droite, il y a des femmes réactionnaires, il y a des femmes islamophobes. Et dans ces cercles-là aussi, le sujet transidentité est devenu porteur et est devenu une vraie ancre idéologique. C'est pas nouveau, hein. Le manuel, enfin la base, le comment, la base idéologique, théorique d'un féminisme transphobe, elle date de 69. C'est un livre qui s'appelle The Transsexual Empire par Janice Raymond. Donc, c'est pas nouveau, vraiment pas. Mais ça s'est mainstreamisé, c'est devenu mainstream et surtout, ça a dépassé les questions de violence sexuelle. C'était quand même restreint à certains points politiques. Maintenant, c'est tout le temps, c'est pour tout. C'est, enfin, il y a quand même la Fédération américaine de pêche qui veut interdire les compétitions de pêche aux femmes trans.
Mais quoi?
Ça, c'est...
En vrai, ça a tellement pas de sens. Mais je trouve que ça fait. Enfin, je trouve que c'est vraiment effrayant parce
Oui,
que c'est.
c'est le mot.
Et encore, bah, moi, je suis pas concernée directement, mais vraiment, quand
Oui,
j'entends
mais
ça
si quand même,
m'effraie.
si quand même, parce que
Oui,
je
c'est
pense
sûr.
que je sais que tu as pris position, que tu connais le sujet, et je pense que tu sais, comme beaucoup d'autres, à quel point en fait c'est la c'est soit la première ligne, soit c'est directement main dans la main avec les restrictions
Ouais.
qui sont celles des imposées aux femmes cis depuis longtemps et
Clairement.
qui sont récupérées par d'autres femmes cis à maintenant concrètement, avec aussi toute cette mouvance tradwife, enfin donc en fait quand on est dans une volonté de compréhension des féminismes, on se rend compte que la transmisogynie est retirée des droits spécifiquement liés au parcours de transition, c'est aussi retiré des droits liés à la possibilité de disposer de ton corps quand on est une femme cis. C'est indissociable.
Ouais. Mais c'est pour ça qu'effectivement, je comprends pas comment c'est possible de se dire féministe et de lutter pour
Ben,
les
tu
droits
vois, moi,
des autres.
aujourd'hui, je veux plus... évidemment, alors, oui, je suis d'accord. Mais je me sens plus capable et je ne sais pas si je veux me donner la légitimité de leur retirer quand même le fait qu'elles ont été, qu'elles sont féministes, parce que c'est des personnes qui, à un moment de l'histoire du féminisme en ligne, du féminisme pop culture, des nouvelles vagues de féminisme, on l'appelle comme on veut, ça a été des fondements.
Ouais, c'est clair.
Et en même temps, beaucoup de femmes trans, quand on est celle qui, disons, on n'est pas féministe si on n'est pas féministe si on est transphobe, ben en fait, on nous le remet dans les dents. Qu'on est les hommes qui décident de qui est féministe. Donc,
Ouais, je
je
vois.
me sens plus légitime à dire ça. Et je crois aussi qu'il faut qu'on soit autocritique sur ce que sont les féminismes et qu'il y a des mouvements de femmes. Ben oui, mais en même temps, non, ça va contre la définition du féminisme, mais... Peut-être qu'en fait, aujourd'hui, c'est ce que ça devient. Et c'est une forme de... Pas de mort, parce qu'on le féminisme, les féministes mourront jamais. Mais c'est l'une des limites qu'il y ait en fait une réappropriation de ces parcours féministes qui deviennent ensuite ça, autre chose, je ne sais pas comment le nommer du coup. Des
Ouais.
parcours réactionnaires, ça c'est certain.
Ouais, c'est sûr. Mais du coup, quand on parle de ça, moi, ça m'amène deux questions. C'est déjà, selon toi, comment ça se fait que ces dernières années, on soit passé dans une si grande augmentation de la haine transphobe et surtout d'une haine vraiment assumée? Et deuxièmement, comment est-ce qu'on peut faire, du coup, pour calmer le jeu et faire un peu changer les choses?
C'est un mouvement de réaction. En un sens, c'était inévitable. Il y a 30, 40, 50 ans, les personnes trans étaient déjà là, les personnes trans transitionnaient déjà par les mêmes techniques, avaient déjà les mêmes revendications, et ça, c'est très triste quand on lit des textes, des
Ouais.
manifestes un peu anciens, rien n'a vraiment changé. Mais c'était une présence, c'était des prises en charge qui étaient limitées aux espaces de psychiatrie, aux espaces d'entre-soi communautaire. Et qui ensuite était juste digéré et perceptible que dans certains espaces très limités, le monde du spectacle, avec je pense à Bambi, à Coccinelle en France, je pense aussi au cas du Japon qui est très intéressant, où vraiment il y a une présence trans dans les années 60 qui est comprise, vue, sur laquelle il y a une législation claire, mais qui est limitée légalement à certains espaces professionnels et sociaux, notamment le monde du divertissement, le monde du spectacle. Donc y a une présence, hein, elle est là, ça c'est clair et net, mais elle est très très limitée et il n'y a pas d'inconscient collectif sur les transidentités. Il y a à la limite le motif de la travailleuse du sexe, mais encore là, tout le monde l'a pas. Aujourd'hui, depuis 10-5 ans, on est dans une explosion des représentations et de la visibilité. C'est génial, c'est très bien, mais c'est pas une fin en soi. Et surtout, ça entraîne forcément un regard sur nous par la majorité. Ça entraîne des choses comme Danish Girl, ça entraîne des choses comme France Culture qui fait le podcast Les Transidentités racontées par les personnes trans. Ça nous donne aussi des possibilités de rejoindre ces industries comme Océan avec la série documentaire Océan. Mais ça entraîne aussi des théorisations, des jugements de valeur, des prises en charge politiques par la majorité qui ne prend pas le temps de nous connaître avant de faire tout ça et qui opère de la part de sa position majoritaire et dominante avec un système de valeurs qui ne prend pas en compte les transidentités et même la possibilité de fluidité des genres. Parce que quand on parle de genre et de transidentité, en fait, c'est des questions beaucoup plus larges et qui concernent aussi les personnes cis. Et quand on voit, quand on entend l'expression de garçon manqué, ça nous montre à quel point juste réfléchir le genre d'une façon un peu plus souple, ça, c'est encore une lourde impossibilité. Donc, c'est un mouvement de réaction face à une visibilité grandissante, face aussi à des revendications qui hérissent des positions de privilège. Je pense aussi qu'il y a une question la question de la fascination, la question de l'incompréhension, le manque d'éducation, mais c'est lié à la visibilité. Et puis peut-être aussi qu'il y a une question de stratégie politique. On est dans une période de refonte des systèmes politiques à l'échelle du monde occidental. On a toujours été dans des systèmes plus ou moins bipolaires, bipartisans, en France, au Royaume-Uni, en Italie, aux États-Unis. Donc bon. Et ça a beaucoup changé ces derniers temps. Et j'ai l'impression que la question des nouveaux engagements sociaux, l'écologie, le féminisme, les questions queer, principalement cela, l'anticapitalisme aussi, question de classe, les nouvelles questions de classe, c'est des sujets qui permettent un nouveau gain de dynamisme aux anciens mouvements politiques et que les personnes trans sont devenues vraiment un homme de paille et le mouton noir, en fait. C'est très facile de nous diaboliser, c'est très facile de nous agiter comme la menace contre laquelle il faut lutter pour redonner du pouvoir, pour redonner de la sécurité et du coup pour réassurer une assise dans de mouvements politiques traditionnels.
Ok, et du coup, quand on sait tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir concrètement, notamment quand on est une personne cisgenre et que on est plus, c'est triste à dire, mais on est plus écouté.
Bien sûr.
Quand des hommes cis parlent de féminisme et qu'on les applaudit alors qu'ils disent des trucs que toutes les femmes disent depuis longtemps.
On est tendu. Hein.
Donc qu'est-ce qu'on peut faire ?
On peut brûler le patriarcat. concrètement, ça passe. Le mouvement de fond, c'est l'éducation.
Ouais.
C'est très basique, mais en même temps, encore une fois, je pense que maintenant, il y a un inconscient collectif sur les transidentités, mais qu'il n'est pas encore nourri par les faits sur les personnes trans. Écouter, se documenter. Il y a plein de documentation maintenant, depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que je tiens le compte, et vraiment, les ressources en français se sont démultipliées. Il y a tous les tons possibles, et il y a vraiment maintenant tous les angles qui existent. S'éduquer, prendre la parole, utiliser cette position de personne qui sera forcément plus écoutée pour désamorcer la transphobie quand on la voit, parce qu'elle s'exprime de plus en plus ouvertement, donc réussir à la désamorcer. Et ensuite, transmettre l'éducation. Moi, je crois beaucoup au 1 plus 1, je crois beaucoup au concept d'éducation populaire. Et en fait, quand une personne parle à une personne, cette personne, elle parle à une autre personne, ça fait une arborescence et ça change à notre échelle, à l'échelle du local, énormément de choses. Venir en manifestation, parce que la vie communautaire, elle existe, elle permet de porter nos revendications, elle permet de nous assurer de la visibilité dans l'espace médiatique, dans l'espace politique. Mais en fait, si c'est que nous, encore une fois, on ne sera pas crédible. Donc venez, il existe l'existence, il y a des rassemblements à l'occasion de la journée de visibilité, de la journée du souvenir. Compatir. Ça nous manque beaucoup. Et en fait, c'est même si ça change peut-être pas forcément les lois de compatir, ça change au moins les jauges de ressources émotionnelles qu'on a. Et c'est là-dessus qu'on carbure. Donc, on a besoin d'avoir des espaces où on peut être juste nous et se ressourcer. Et puis aussi, utiliser la position qu'on a en tant que personne. Cis, vous avez plus facilement accès à l'emploi. Vous êtes plus payé que nous. financer quand vous le pouvez. Utiliser là où vous êtes embauché pour amener des formations ressources humaines, pour embaucher des personnes trans et casser le cycle de discrimination. C'est des choses très concrètes, en fait. Et ça passe par tous les espaces de la société.
Ok, trop bien. C'est des super pistes. Merci beaucoup. Et toi, du coup, c'est quoi tes projets, là, tes envies pour plus tard ?
J'aimerais continuer de... En fait, je suis assez... J'ai un peu honte de le dire, parce qu'on devrait toujours aspirer à plus. Mais moi, je crois que je suis à ma place, là où je suis pour l'instant. Et que tant que j'aurai des retours qui me disent que je suis un peu utile, je veux continuer à l'être. Mais peut-être en changeant de forme, en réussissant à faire plus de collectifs, et réussir aussi quand même un peu à être moins visible et moins militante pour explorer des choses et être plus juste moi. Parce que le but à terme, c'est ça en fait, c'est qu'on parle d'être trans, on parle de transidentité, jusqu'à ce qu'on n'ait plus à en parler.
Mmh. Ouais, je vois. Ok, donc ce serait ça l'objectif pour...
Ouais, ça fait partie des objectifs de vie. Puis il y a des voyages, et puis... mais finalement, comme un peu tout le monde, quoi.
Ouais, trop bien, super. Du coup, dernière question. Donc, Over the Rainbow, ça veut dire au-delà de l'arc-en-ciel. Donc, c'est une notion d'espoir. Pour terminer l'épisode, quelle serait la notion positive et inspirante que tu voudrais transmettre aujourd'hui, ton mot de la fin ?
Je l'ai déjà un peu sous-entendu en expliquant que pour moi c'était une chance d'être trans, mais j'aimerais inviter les personnes cis à le regarder comme ça aussi, juste le temps de cette fin d'épisode pour l'instant. Réfléchissez et autorisez-vous à considérer que avoir une personne trans dans son entourage ou réfléchir à ce que sont les transidentités, c'est ouvrir plein de fenêtres sur toujours plus de diversité, et c'est joyeux la diversité, c'est d'autres couleurs, c'est d'autres formes, c'est d'autres musiques. Et autorisez-vous et acceptez d'entendre que une présence trans, c'est aussi des réflexions qui cassent des murs, qui vous bloquent aussi.
Très belle façon de terminer l'épisode. Merci beaucoup d'être venu raconter ton histoire.
C'était trop intéressant. C'est toi qui es venu, merci.
Et puis, merci vraiment. C'était pour aussi tout l'éclairage un peu plus sociologique et tout ça. C'est tellement intéressant. J'espère. Peux que recommander de suivre ton compte, bien sûr, de suivre tes différents projets.
Rejoignez-nous.
Voilà, c'est ça. Merci encore. Et puis, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Pensez à lui mettre 5 étoiles si vous l'avez apprécié. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez, et vous procurer mon livre « Qui suis-je ?» aux éditions Le Duc, qui a d'ailleurs toute une partie consacrée aux questions LGBTQ+, et à la transidentité. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. N'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye !